Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En ce mois de décembre, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alors, une nouveauté pour cette émission, nous accueillons également une représentante de Radio Présence Lourdes-Pyrénées, Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Et dorénavant, donc, cette émission sera diffusée à la fois sur Radio La Pourdie Iratia en Pays Basque et également du côté du Béarn et du côté de Lourdes, puisque cette émission sera également diffusée sur Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Et donc, nous saluons à la fois les Basques, les Béarnais et les Bigourdans qui nous écoutent. Alors, Monseigneur Ayé, vous revenez du Bénin et il me semble même que vous avez appris le bariba là-bas. Vous y étiez du 17 au 24 novembre.
Voilà, j'ai voulu participer à ce pèlerinage ou ce voyage apostolique de Benoît XVI au Bénin, et pas seulement au Bénin, mais à travers le Bénin à l'Afrique tout entière, pour trois occasions, comme vous le savez. D'abord, il y allait pour clôturer l'année jubilaire des 150 ans d'évangélisation du Bénin par les missionnaires de la Société des Missions Africaines de Lyon, dont nous avons d'ailleurs un représentant au Bénin en la personne du père Michel Iriquin, qui est dans le diocèse de Djougou, dans le nord du Bénin. Et il y allait aussi pour signer et remettre l'exhortation apostolique post-synodale pour l'Afrique, hein, qui a eu lieu il y a 2 ans à Rome. Et ce synode qui avait pour thème la réconciliation, la paix et la justice en Afrique. Exhortation apostolique intitulée Africe Munus, les deux premiers mots latins du texte de cette encyclique, de cette exhortation, et qui veut dire l'engagement ou la responsabilité de l'Afrique. Et puis il y allait aussi à titre un peu, j'allais dire, personnel et sentimental, pour se recueillir sur la tombe de son grand ami, le cardinal Grantin, qui est évidemment un personnage de stature nationale au Bénin, et aussi et pour l'Église universelle, puisqu'il a œuvré très longtemps à Robe comme préfet de la Congrégation pour les évêques.
Nous allons revenir tout à l'heure avec Violaine sur les messages que le pape Benoît XVI a voulu adresser à l'Afrique, mais également à l'Église universelle à cette occasion. Mais parlons de votre voyage, puisque vous êtes né au Bénin.
Voilà, alors c'était aussi pour moi un peu un pèlerinage aux sources, puisque je suis né à Parakou, qui est aussi dans le nord du Bénin, et j'y étais baptisé. Baptisé dans une église qui venait à peine d'être construite, la première église de Parakou, Saint-Pierre-Saint-Paul, par le missionnaire des missions africaines de Lyon, qui m'a baptisé par conséquent. Il avait construit cette église un an avant ma naissance, avec des pierres apportées par mon père et ses soldats, puisque mon père commandait la garnison donc de Parakou. Et donc pour moi c'est aussi très symbolique, j'ai pu ainsi me rendre, après le voyage apostolique donc du Saint-Père à Cotonou les 3 premiers jours, je me suis rendu à l'invitation de Mgr Nkoué, le nouvel archevêque de Parakou, qui se trouve que je connaissais déjà auparavant, que j'avais rencontré à Rome, et j'ai pu célébrer la messe dans cette cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, qui est devenue en effet la cathédrale d'un archidiocèse important du Bénin.
Vous êtes resté une bonne semaine, du 17 au 24 novembre. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les rencontres, quels sont les chrétiens que vous avez rencontrés là-bas?
Alors d'abord, les premières rencontres, c'est avec les évêques d'Afrique. Car vous savez qu'à Cotonou était rassemblé non seulement le peuple béninois, toute confession et toute religion confondue d'ailleurs. Car vous savez que 25% des Béninois sont catholiques. Mais il y a aussi beaucoup d'animistes, essentiellement, les religions traditionnelles, comme on dit, et aussi un certain nombre de musulmans, mais tous, avec une grande ferveur, je dirais, ont accueilli de manière assez unanime ce visiteur pas ordinaire qui vient visiter ce petit pays d'Afrique que l'on appelait autrefois le quartier latin de l'Afrique, hein, car c'est un pays très particulier où il y a aussi pas mal d'intellectuels. Et j'y ai rencontré là plus d'une centaine d'évêques de toute l'Afrique, car toutes les conférences épiscopales, nationales ou régionales de l'Afrique, étaient représentées par 2 ou 3 évêques, pour l'événement, puisqu'ils allaient recevoir des mains de Benoît XVI, cette exhortation apostolique qui concerne toute l'Afrique. Donc ça a été un moment d'échange très intéressant. J'étais aussi dans une délégation d'évêques français. Nous étions 5 évêques français, donc 4 encore en fonction, si je puis dire, puisque l'un d'eux était émérite. Et c'est évidemment très riche de se retrouver dans ce continent extrêmement dynamique, où l'Église est pleine de jeunesse et d'espérance, et bien pour un tel événement.
Alors vous avez rencontré aussi l'archevêque de Niamey, qui est originaire d'Hasparren.
Voilà, nous sommes retrouvés avec Monsieur Kertategui, qui est originaire d'Hasparren, et nous avons participé effectivement ensemble à ce voyage.
Qu'est-ce qui vous a, vous, marqué dans l'Église d'Afrique et plus largement dans la vie des gens là-bas, tout simplement?
Alors ce qui me marque évidemment, c'est un petit peu l'impression que le pape Benoît XVI a bien exprimé aussi dans la plupart de ses discours, et en particulier dans un discours, j'allais dire, fondateur, qui est celui qu'il a prononcé devant les membres du gouvernement et les représentants des institutions de la République et le corps diplomatique, le samedi 19 novembre, à Cotonou. Et c'est vraiment, je dirais, l'impression qui se dégage, c'est le dynamisme de l'Église d'Afrique, au Bénin sans doute, mais un peu partout en Afrique, qui fêtait là ses 150 ans d'évangélisation, mais où on voit un clergé autochtone, une église très présente dans la société, car vous savez que à un moment de crise importante au Bénin, après une république marxiste, révolutionnaire, la transition a été opérée par l'église elle-même, puisque c'était l'archevêque de Cotonou qui présidait la conférence nationale qui a préparé la démocratie au Bénin, qui est effectivement le système en place actuellement. Je reprendrai les paroles de Benoît XVI qui dit que plusieurs fois, et il le répète à Cotonou, il a associé à l'Afrique le mot d'espérance, en rappelant que c'était pour lui une conviction personnelle, mais qui était aussi celle de l'Église aujourd'hui, que l'Afrique était vraiment le continent de l'espérance. Et il ajoutait parler d'espérance et parler d'avenir, et donc de Dieu. Et je trouve que ça m'a beaucoup frappé de voir que il a reconnu d'une manière très sereine et publique cette vitalité de l'Afrique, cette vitalité de l'Église en Afrique. Et il n'est pas venu comme, au contraire de beaucoup de grands responsables politiques ou même parfois d'ONG en Afrique, avec condescendance, comme un donneur de leçons, mais au contraire avec beaucoup d'humilité et en reconnaissant avec beaucoup de réalisme à la fois les maux qui affligent l'Afrique, à la fois l'exploitation aussi qui est faite de l'Afrique souvent sans scrupule par, disons, les Occidentaux, mais aussi l'Asie, hein, et la Chine, qui est un grand pays émergent, qui semble actuellement faire une sorte d'OPA sur l'Afrique, mais aussi tout le positif de l'Afrique, en disant que c'était une responsabilité, pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier. Et au fond, on pourrait résumer tout ce que le pape Benoît XVI a dit en Afrique pendant son voyage apostolique, à cette phrase « Africains, prenez vos responsabilités aujourd'hui face au monde et avec la grâce de Dieu hein, ». Et je crois que ça, c'est une chose qui est très importante.
Alors, Monseigneur Hayet, vous soulignez la jeunesse et le dynamisme de l'Église au Bénin. Apparemment, c'est ce qui vous a marqué parmi d'autres choses. Est-ce que cela vous a donné des idées pour notre diocèse? En quoi est-ce que finalement l'Église d'Afrique peut être un exemple pour les Occidentaux?
Alors, exemple, on est tous exemplaires les uns pour les autres. Je dirais partenaire, en tout cas. Moi, je suis très sensible à cette jeunesse de la foi et de l'Église en Afrique, qui peut être pour nous un stimulant pour eh bien aussi un bain de jouvence dont nous avons besoin dans nos églises de vieille chrétienté, qui parfois vieillissent à tous les sens du mot et peuvent aussi un peu s'endormir. Et je pense que nous avons besoin de ce partenariat, qu'on appelle autrement dans notre jargon ecclésial de la coopération missionnaire, et je serais heureux que nous puissions approfondir des relations concrètes avec tel ou tel diocèse d'Afrique. À la fois, ils peuvent nous stimuler pour retrouver nous-mêmes la jeunesse de la foi, que parfois nous avons un peu perdue, et en même temps nous pouvons continuer à leur apporter ce qu'ils attendent aussi de nous, un accompagnement aussi dans le cadre de la formation, de la structuration de l'Église, grâce au poids de la tradition, hein, qui est notre caractéristique principale.
Concernant les messages de Benoît XVI, vous avez parlé d'espérance, c'est finalement quelque chose qui peut être entendu aussi par les églises d'Occident?
Oui, tout à fait, qui peut être entendu dans les églises d'Occident. Il a rappelé finalement que l'histoire est faite par les hommes, que aucun événement, aussi dramatique soit-il, ne peut empêcher les hommes d'être inventifs, et surtout s'ils mettent leur confiance en Dieu. Il l'a redit à de nombreuses reprises. Dans son grand discours, il a parlé de deux domaines qui sont particulièrement prégnants en Afrique, mais qui sont vrais aussi dans le monde entier. La question économique et sociopolitique, avec tous les bouleversements que l'Afrique a connus dans ces derniers mois et ces dernières années, lieu aussi de beaucoup de violence, de beaucoup de corruption, mais beaucoup d'aspiration à la liberté aussi, et à la prise, à l'auto-prise en charge, hein. Et donc il a pas seulement flatté, mais encouragé à cette auto-prise en charge en disant que l'Afrique est capable de se prendre en charge à condition qu'elle ne soit pas un vaste réservoir minéral et humain que l'on exploite, quant à nous, sans scrupules et à des fins qui ne sont pas toujours très honnêtes. Donc il a beaucoup stigmatisé la corruption dont l'Afrique peut être aussi le théâtre aujourd'hui. Et l'autre aspect important, c'est celui du dialogue interreligieux ou interculturel, car vous savez que toutes les religions se retrouvent en Afrique, mais d'une manière un peu moins tendue qu'ailleurs, dans le sens où ce qui est premier, c'est une des valeurs positives que l'Afrique peut nous réapprendre quant à nous, qui est la valeur de la famille, la valeur de la vie, qui est toujours sacré chez eux, et la valeur de la famille. Et c'est vrai que avant d'être musulman ou chrétien, on appartient à une famille, et donc les relations sont beaucoup moins tendues, et comme le pape l'y a encouragé, le dialogue interreligieux, pour éviter le syncrétisme, qui est aussi une tentation facile en Afrique, eh bien il faut que chaque religion soit bien au fait de sa propre identité, pour pouvoir mieux affronter l'autre, pas l'affronter, mais entrer dans un vrai dialogue qui soit constructif d'une société réconciliée.
Vous avez parlé tout à l'heure d'échanges avec certains diocèses africains, mais déjà vous faites venir des prêtres africains ici dans le diocèse de Bayonne-Escarolo.
Voilà, j'avais l'impression en effet qu'il ne s'agit pas seulement d'une conviction personnelle ou d'une sensibilité personnelle du fait que je suis né en Afrique, que j'aime l'Afrique et que dans mon histoire passée, j'ai aussi eu beaucoup d'échanges en tant que curé de paroisse avec une paroisse d'un diocèse du Burkina Faso, mais je sais que notre diocèse a beaucoup de relations avec l'Afrique actuellement. Nous avons un prêtre fidèle de Noumo Tchad, mais nous avons aussi des missionnaires originaires d'autres diocèses. On a cité tout à l'heure Michel Héricain ou Michel Kartategui, archevêque de Niamey actuellement, mais aussi beaucoup de prêtres du diocèse qui ont fait leur coopération dans tel ou tel pays d'Afrique ou qui ont fait un temps missionnaire. Je pense à certains prêtres qui sont allés en Centrafrique et bien d'autres pays.
Alors, Monseigneur Hayet, vous, plus près de nous, vous rentrez également de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, des évêques français, donc du 4 au 9 novembre dernier. Donc, beaucoup de sujets ont été abordés. Peut-être que vous voudriez nous parler d'un ou deux sujets qui vous tiennent à cœur.
Voilà, je pense que nous avons clos deux chantiers qui avaient été ouverts il y a 2 ans et qui ont donné lieu à 2 groupes de travail qui ont évidemment œuvré en lien avec l'Assemblée plénière. Le premier sujet, celui de l'environnement et de l'écologie. Nous sommes parvenus à un texte qui sera sans doute publié dans les documents épiscopat de la Conférence évêque de France, qui donne une analyse à la fois anthropologique et théologique sur les enjeux écologiques dans le monde d'aujourd'hui. Et puis un texte peut-être plus important encore et plus immédiatement utilisable dans notre pastoral ordinaire, celui sur les rassemblements dominicaux, qui n'a pas donné lieu, et je le regrette personnellement, à la publication d'un message au peuple de Dieu comme ça avait été un peu l'intention première, mais Nous n'avons pas atteint la majorité des deux tiers pour prendre cette décision. Ceci dit, nous avons un document avec des fiches de travail sur l'importance des rassemblements dominicaux. Je crois que c'est assez significatif de voir que les évêques ont quand même planché pendant 2 ans sur l'importance du dimanche dans la vie de l'Église aujourd'hui. Et je pense que ce peut être un point d'insistance que pour lequel nous serons aidés à travers ce résultat du travail accompli par l'Assemblée plénière.
Quand vous dites rassemblement dominicaux, ce sont les messes ou ça peut être
alors c'est
autre
le dimanche, le sens du dimanche comme jour du Seigneur, comme jour de la création, comme jour du repos aussi, et donc avec toutes ces incidences familiales et sociales, centré évidemment sur l'Eucharistie dominicale, hein, qui, comme disait Jean-Paul II déjà dans un texte important au début du nouveau millénaire, est vraiment le meilleur antidote à la dispersion, et qui nous rappelle aussi, c'est-à-dire le titre du message qui avait été proposé à la publication, qui rappelle les premiers chrétiens, les martyrs d'Abitène au IVe siècle, qui sont tous morts en criant « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Et redire un peu la nécessité de ce rassemblement dominical pour la vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est un point d'insistance sur lequel les évêques ont quand même voulu apporter une vraie contribution. Après, nous avons avancé sur un groupe de travail qui avait été décidé en avril dernier sur l'Internet et l'Église, et avec contribution de 2 experts, dont la présidente de la CNIL, sur les enjeux anthropologiques d'Internet avec la multiplication des réseaux sociaux, mais paradoxalement, j'allais dire, l'induction d'un certain individualisme à travers l'usage, en particulier dans les jeunes générations, d'Internet, sans avoir toujours les référents et les régulations nécessaires dans ce vaste monde où l'on peut aussi se perdre. Et enfin, nous avons voté la constitution d'un nouveau groupe de travail intitulé « Ministres ordonnés fidèles laïcs », quelle présence des catholiques dans la société contemporaine. Je crois que c'est aussi une question d'autant plus importante que l'Église catholique pourrait paraître, si l'on suit les statistiques, et en particulier les taux de pratique religieuse dans notre pays, pourrait tendre à paraître minoritaire. Mais comment cette présence des catholiques est-elle honorée dans la société d'aujourd'hui?
Monseigneur Raillet, vous avez également, avec les autres évêques, bien sûr, vous avez adressé un message aux chrétiens d'Orient.
Voilà, nous sommes toujours évidemment conscients. Nous avons d'ailleurs entendu l'archevêque d'Alger, qui lui est un arabe, comme vous le savez, ce qui est nouveau par rapport aux décennies passées, et donc qui a une vision arabe de ce qui se passe dans les pays arabes en ce moment. Nous avons parlé, il nous a parlé du printemps arabe, avec toutes les espérances qui avaient été portées en particulier par une jeunesse qui s'était, semble-t-il, assez spontanément rassemblée, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Tunisie, mais avec les inquiétudes qui pointent à l'horizon et dont sont évidemment, auxquelles sont plus sensibilisés les chrétiens du Moyen-Orient, qui voient en effet bien leur sort un peu entaché par les événements qui semblent suivre ce printemps arabe à travers les élections que nous connaissons. Alors sans doute d'une certaine manière c'est une victoire de la démocratie que ces élections organisées, mais c'est aussi les partis islamistes qui semblent récupérer la mise, avec donc des inquiétudes nouvelles pour les chrétiens du Moyen-Orient, qui connaissent, comme vous le savez, un regain de discrimination, voire de persécution.
Alors justement, puisqu'on parle des chrétiens d'Orient, vous avez récemment transmis 2 communiqués de presse, dont le premier était le 17 octobre, « Heureux les artisans de paix », où vous rappelez justement l'importance de la paix concernant les chrétiens au Moyen-Orient.
Alors le but de ce communiqué était d'annoncer d'une certaine manière la rencontre interreligieuse d'Assise, pour le 25e anniversaire de la première rencontre organisée par le pape Jean-Paul II. C'est-à-dire Benoît XVI a voulu réitérer l'expérience 25 ans plus tard, d'une manière un peu nouvelle, rencontre interreligieuse qui est devenue d'ailleurs peut-être davantage encore une rencontre interculturelle, qui se situait plus à un niveau politique au sens noble du terme qu'à un niveau proprement religieux. Il ne s'agissait pas tant de prier que de manifester ensemble les représentants des grandes religions et des grandes cultures de notre planète, de manifester un engagement public en faveur de la paix. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu rappeler que la paix passait par le respect de la liberté religieuse et qu'elle pouvait être mise à mal dans nos pays de vieille chrétienté, parce qu'en France, nous avons vu quelques rebondissements, quelques manifestations parfois un peu christianophobes au nom de la culture. Récemment, c'est allé sur nos écrans ou dans nos théâtres publics. Mais j'ai surtout pointé l'attention sur les persécutions contre les chrétiens au Moyen-Orient, qui semblent aussi devenir un peu monnaie courante actuellement.
Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens qui vont manifester devant les théâtres ?
Alors moi j'approuve les chrétiens qui manifestent leur indignation d'une manière pacifique, sans violence, Et sans provocation. Je ne suis pas forcément d'accord avec une manifestation qui pourrait être trop provocatrice. Pour autant, je comprends l'indignation des chrétiens face à un regain de manifestations christianophobes dans la société d'aujourd'hui. Et je pense que ces jeunes en particulier, dont certains peuvent être plus extrémistes, mais dont beaucoup sont issus de nos réseaux JMJ finalement, manifestent à leur manière, c'est-à-dire comme des jeunes, leur indignation. Alors c'est pas toujours contrôlable, mais ça mérite peut-être attention, bienveillance et surtout accompagnement pour aider au discernement et au choix des meilleurs moyens de manifester son indignation de la part des pasteurs que nous sommes.
Le 24 octobre dernier, suite à l'annonce de l'arrêt définitif de la violence par l'ETA, vous avez publié un communiqué intitulé « Un espoir de paix, Bacalen Esperanza ». L'Église a une parole à dire par rapport à la situation au Pays Basque et l'Église doit-elle ou s'engage-t-elle pour promouvoir la paix en Pays Basque ?
Pour reprendre l'expression du synode des évêques pour l'Afrique, qui est secoué par tant de tensions, de dissensions et de violences, comme on le sait, où la guerre sévit beaucoup, et souvent des guerres ethniques, avant d'être des guerres religieuses. Je dirais en effet que l'Église doit œuvrer pour la réconciliation, la justice et la paix. C'est inhérent à sa mission propre. Et c'est pourquoi tout signe important dans un processus de paix doit être salué avec beaucoup de sérénité par l'Église, et sachant qu'il y a certainement beaucoup de personnes, d'associations qui ont œuvré souvent à ce genre de dénouement. En même temps, elle doit en effet promouvoir la paix, la réconciliation et inviter les chrétiens à prendre leur part par la prière, sans doute d'abord, parce que nous croyons aussi à la force de la prière pour la réconciliation, mais aussi dans l'action, pour aider les parties en présence à se rencontrer, à dialoguer, à se parler, et à poser des actes forts, des gestes forts, qui vont dans le sens de la réconciliation, qui ne peut être que le fruit de la justice, et donc d'une condamnation définitive de la violence.
Vous parlez de cette question avec vos frères évêques du Pays Basque, les autres évêques du Pays Basque.
Alors nous est arrivé en effet, et récemment encore bien sûr, avec l'accélération du processus de paix, de parler de ces questions avec mes confrères du Pays Basque du Sud, sachant que peut-être les tensions sont plus exacerbées, je pense, au sud qu'au nord. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans le même contexte.
Revenons maintenant sur les derniers événements de notre vie diocésaine depuis notre dernier entretien. Donc vie diocésaine en Béarn et au Pays Basque. Alors déjà le 11 novembre, c'était le forum de la pastorale des jeunes. Le forum de la pastorale des jeunes qui se déroulait à Orthès. Le thème c'était « Dans nos diversités, un élan missionnaire ». Et donc ce forum rassemblait tous les acteurs qui œuvrent auprès des jeunes, donc dans les différents mouvements, les différentes aumôneries, les lycées. Alors vous avez célébré la messe de clôture de cette journée. Qu'avez-vous dit à ces personnes qui sont impliquées auprès des jeunes ?
Alors j'ai essayé de me couler, si je puis dire, dans le thème qui avait été prévu par les responsables de la diocésaine de la pastorale des jeunes pour ce forum dans l'élan des JMJ. Et le thème, en effet, c'est un élan missionnaire, hein, qui reprend d'ailleurs le thème principal de ma lettre pastorale d'il y a un an. Et d'ailleurs, avait été invité un prêtre de Toulouse, Hervé Guignard, qui est venu parler aux animateurs de la pastorale des jeunes des fondements de la nouvelle évangélisation dans les documents du Concile Vatican II, c'est essentiellement Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Donc je crois que c'était une manière d'inviter à une réflexion en amont de l'action concrète, sans doute, mais pour irriguer encore un peu plus notre engagement missionnaire auprès des jeunes. Et encore une fois, ce sur quoi je suis revenu quant à moi dans l'homélie de la messe, c'est l'importance de l'évangélisation des jeunes par les jeunes, hein, qui nécessite évidemment d'être bien formé, de manifester, d'être uni aussi. Je suis parti sur l'exemple de Saint-Martin, puisque c'était
le jour de la Saint-Martin,
voilà, le 11 novembre, qui lui a été touché pour devenir chrétien par une communauté qui vivait dans une grande charité fraternelle et dans la joie de la louange du Seigneur. Donc j'ai rappelé que c'était vraiment la source de l'évangélisation, que cette communion fraternelle qui trouve aussi son fondement dans la louange et dans la prière, et qu'il fallait s'engager vraiment dans le témoignage de l'Évangile. C'est un peu la mission qui était confiée aux jeunes au terme des JMJ à Madrid, en disant aux jeunes, en particulier francophones, d'être vraiment des témoins authentiques, crédibles et sans complexe de leur foi dans le monde d'aujourd'hui. Et donc j'ai invité les jeunes à s'approprier cette fameuse enquête sur le kérigme que j'avais annoncé dans ma lettre pastorale, pour laquelle j'avais rassemblé les conseils pastoraux de paroisse par zone l'an dernier, et que nous lançons effectivement en ces semaines-là, de début d'année pastorale. Et j'ai voulu symboliquement lancer cette enquête sur le kérigme, c'est-à-dire sur la première annonce finalement de l'Évangile, avec les animateurs de la pastorale des jeunes, et le lendemain d'ailleurs avec les réalités ecclésiales nouvelles.
Monseigneur Haye, comme on dit chez nous, vous êtes monté à Paris le dimanche 16 octobre pour une visite pastorale courte mais intense de la Maison Basque de Paris.
Voilà, l'invitation donc du président de la Maison Basque de Paris. J'ai voulu faire cette courte visite pastorale d'une réalité qui est relié à notre diocèse, vous le savez pourquoi, parce que dans son histoire, la Maison Basque de Paris a été fondée il y a une cinquantaine d'années maintenant, avec l'aide, pas seulement l'encouragement, mais même l'aide financière du diocèse de Bayonne. Voilà. Et donc il y a une animation spirituelle qui a été longtemps accomplie par un aumônier permanent. Ils n'ont plus le luxe, malheureusement, d'avoir un prêtre en permanence dans la Maison Basque de Paris, mais nous avons toujours un aumônier, qui est un curé du Pays Basque intérieur, l'abbé Jean-Baptiste Mounot, et qui continue de monter à Paris, assurer une messe et un rassemblement donc des chrétiens dans la Maison Basque de Paris au moins une fois par trimestre. Mais il est aidé par un relais sur place, qui est une équipe d'animation pastorale que nous avons mise en place il y a un an, d'au moins un métro, si je puis dire, parce que s'ils ont relancé l'affaire des béatitudes, c'est à cause en effet de ce déplorable procès qui était annoncé depuis un certain nombre d'années. On sait bien que la justice met beaucoup de temps, et c'est vrai que la première chose que l'on peut dire, je crois d'ailleurs que les béatitudes dans un communiqué officiel extrêmement transparent ont aussi déploré l'attitude de certains de leurs membres, demander pardon et évidemment essayer de rejoindre surtout les victimes et leurs familles qui sont évidemment les plus atteints par toutes ces affaires. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces personnes qui sont aujourd'hui mises sur le devant de la scène, dont pour d'autres raisons que la pédophilie, le fondateur de la communauté des Béatitudes, sont exclus et en marge de la communauté depuis bien des années, et que depuis plusieurs années, les Béatitudes se soumettent avec beaucoup de loyauté et d'honnêteté à un devoir de clarification qui leur a été demandé par le Saint-Siège pour ajuster leur mode de fonctionnement et en particulier leur mode de gouvernance. Aujourd'hui, l'Église, qui était très attentive depuis un certain nombre d'années aux dérives possibles, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont pointées du doigt à travers ces procès, et donc qui n'ont pas ce degré de gravité, a aidé les Béatitudes dans cette étape de croissance à trouver un mode de fonctionnement qui permette à des états de vie différents, qu'ils soient des prêtres, qu'ils soient des consacrés, qu'ils soient des laïcs, de vivre dans une même famille ecclésiale, au service d'un même charisme, charisme d'évangélisation, un charisme de témoignage rendu dans le monde, mais avec des spécificités qui sont propres à chacune de ces branches. Donc il y a un accompagnement de l'Église depuis plusieurs années, et je dois dire que la communauté des Béatitudes de Nailles, qui a fêté il y a quelques années ses 30 ans d'existence, d'ailleurs j'ai célébré en arrivant dans ce diocèse le 30e anniversaire, est une communauté sur ce point assez exemplaire, car les choses se passent de manière très paisible, très sereine, et ils sont tout à fait, ouverts à ces nécessaires clarifications et ajustements qui leur sont demandés par l'Église.
Parce que c'est vrai que ce qui est remis en cause, c'est aussi le fait que des familles avec enfants habitent dans le même endroit que des prêtres.
Oui,
ou des
n'existe plus aux Béatitudes depuis déjà plusieurs années, d'accord, mais qui a pu donner lieu en effet à des dysfonctionnements. Et c'est pourquoi on est passé d'une association de fidèles dépendant du Conseil pontifical pour les laïcs, qui rassemblait, c'est vrai, sans suffisamment de distinction, tous les états de vie, y compris des familles, avec en effet des effets qui peuvent être dommageables pour les familles, à une famille ecclésiale de vie consacrée, où les différentes branches sont tout à fait séparées. Il y aura une branche masculine de frères consacrés, dont certains sont prêtres, une branche féminine de consacrés, de sœurs consacrées, et une branche de laïcs associés. Et le tout essayant de servir dans la communion ecclésiale, car c'est une belle image de l'Église et de son universalité, de sa diversité, que de pouvoir faire vivre quand même dans une même famille ecclésiale tous ces états de vie au service d'un projet d'évangélisation commun.
Alors dans notre diocèse, il y a d'autres réalités ecclésiales nouvelles. D'ailleurs, vous les avez rencontrées également à Nailles le 12 novembre. Parlez-nous de ces réalités nouvelles. Pour vous, c'est important pour justement cet élan missionnaire qui vous tient à cœur.
Alors comme je l'ai en effet explicité dans ma lettre pastorale, je crois que les réalités ecclésiales nouvelles, comme nous disons, qui peuvent être des moyens d'évangélisation, qui mobilisent un certain nombre de chrétiens dans nos paroisses, aussi pour la conduite de l'établissement, qui déborde évidemment le projet proprement pastoral, qui est intégré à un projet éducatif d'ensemble, est très important que ce binôme fonctionne. Je sais bien que le nombre de prêtres diminue, je sais bien que les tâches dévolues aux prêtres augmentent. Je sais aussi que les chefs d'établissement sont extrêmement requis par des tâches d'ordre pédagogique et administratif qui se compliquent de plus en plus. Mais je crois qu'il faut resserrer les liens entre le chef d'établissement et le prêtre référent que je voudrais pouvoir missionner dans tous les établissements catholiques d'enseignement de notre diocèse. Alors ces réunions permettent d'ajuster leurs missions respectives et peut-être de faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent se parler, se dire à la fois les joies de leur collaboration et aussi peut-être les difficultés et les manques qu'ils connaissent sur le terrain.
Récemment, Monseigneur Hayet, vous avez rencontré la communauté des Béatitudes qui se trouve à Nailles, dans notre diocèse. Alors, c'est vrai que les Béatitudes, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a eu le procès de Pierre-Étienne Albert, qui vient d'être condamné à 5 ans de prison pour des agressions sexuelles sur des enfants. Est-ce que cette remise en cause du fonctionnement des Béatitudes, finalement, dont on parle beaucoup, va avoir des conséquences sur la communauté de Nailles?
Alors, d'une certaine manière, vous voyez, les médias sont quand même en retard d'au moins un métro, si je puis dire, Parce que s'ils ont relancé l'affaire des béatitudes, c'est à cause en effet de ce déplorable procès qui était annoncé depuis un certain nombre d'années. On sait bien que la justice met beaucoup de temps. Et c'est vrai que la première chose que l'on peut dire, je crois d'ailleurs que les béatitudes dans un communiqué officiel extrêmement transparent ont aussi déploré l'attitude de certains de leurs membres, demandé pardon et évidemment essayer de rejoindre surtout les victimes et leurs familles qui sont évidemment les plus atteints par toutes ces affaires. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces personnes qui sont aujourd'hui mises sur le devant de la scène, dont pour d'autres raisons que la pédophilie, le fondateur de la communauté des Béatitudes, sont exclus et en marge de la communauté depuis bien des années, et que depuis plusieurs années, les Béatitudes se soumettent avec beaucoup de loyauté et d'honnêteté à un devoir de clarification qui leur a été demandé par le Saint-Siège pour ajuster leur mode de fonctionnement et en particulier leur mode de gouvernance. Aujourd'hui, l'Église, qui a été très attentive depuis un certain nombre d'années aux dérives possibles, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont pointées du doigt à travers ces procès, et donc qui n'ont pas ce degré de gravité, a aidé les béatitudes dans cette étape de croissance à trouver un mode de fonctionnement qui permette à des états de vie différents, qu'ils soient des prêtres, qu'ils soient des consacrés, qu'ils soient des laïcs, de vivre dans une même famille ecclésiale, au service d'un même charisme, charisme d'évangélisation, un charisme de témoignage rendu dans le monde, mais avec des spécificités qui sont propres à chacune de ces branches. Donc il y a un accompagnement de l'Église depuis plusieurs années, et je dois dire que la communauté des Béatitudes de Nailles, qui a fêté il y a quelques années ses 30 ans d'existence, d'ailleurs j'ai célébré en arrivant dans ce diocèse le 30e anniversaire, est une communauté sur ce point assez exemplaire, car les choses se passent de manière très paisible, très sereine, et ils sont tout à fait, ouverts à ces nécessaires clarifications et ajustements qui leur sont demandés par l'Église.
Parce que c'est vrai que ce qui est remis en cause, c'est aussi le fait que des familles avec enfants habitent dans le même endroit que des prêtres.
Oui,
ou des
n'existe plus aux béatitudes depuis déjà plusieurs années, d'accord, mais qui a pu donner lieu en effet à des dysfonctionnements. Et c'est pourquoi on est passé d'une association de fidèles dépendant du Conseil pontifical pour les laïcs, qui rassemblait, c'est vrai, sans suffisamment de distinction, tous les états de vie, y compris des familles, avec en effet des effets qui peuvent être dommageables pour les familles, à une famille ecclésiale de vie consacrée, où les différentes branches sont tout à fait séparées. Il y aura une branche masculine de frères consacrés, dont certains sont prêtres, une branche féminine de consacrés, de sœurs consacrées, et une branche de laïcs associés. Et le tout essayant de servir dans la communion ecclésiale, car c'est une belle image de l'Église et de son universalité, de sa diversité, que de pouvoir faire vivre quand même dans une même famille ecclésiale tous ces états de vie au service d'un projet d'évangélisation commun.
Alors dans notre diocèse, il y a d'autres réalités ecclésiales nouvelles. D'ailleurs, vous les avez rencontrées également à Nailles le 12 novembre. Parlez-nous de ces réalités nouvelles. Pour vous, c'est important pour justement cet élan missionnaire qui vous tient à cœur.
Alors comme je l'ai en effet explicité dans ma lettre pastorale, je crois que les réalités ecclésiales nouvelles, comme nous disons, qui peuvent être des moyens d'évangélisation, qui mobilisent un certain nombre de chrétiens dans nos paroisses, qui peuvent être aussi des communautés nouvelles, comme nous disons, ou des nouvelles formes de vie consacrée, qui sont nées depuis le Concile, dans un souci de répondre à l'appel à la nouvelle évangélisation, qui est lancé par le Concile, relayé par le pape Paul VI et finalement accompli fermement par le pape Jean-Paul II et par le pape Benoît XVI, sont des réalités que le pape Benoît XVI a appelées parmi les fruits les plus importants du Concile Vatican II. Donc elles existent, elles sont déjà installées d'une certaine manière dans le paysage de notre diocèse, et je pense qu'elles peuvent apporter, comme je leur ai dit, à leur place, toute leur place, rien que leur place, une vraie contribution à cette, ce nouvel élan missionnaire que nous voulons voir s'emparer de toutes nos communautés chrétiennes. Certainement pas par substitution des réalités existantes, mais apportant leur contribution. Et je tenais, et c'était une grande première, à les rassembler tous ensemble pour leur dire à la fois que je prenais acte de leur existence comme un don pour l'Église d'aujourd'hui, et que je voulais leur dire combien l'évêque que je suis et l'Église diocésaine à travers moi ont besoin d'eux, de leur charisme, que je les invite à mettre à la disposition de manière très humble de nos communautés chrétiennes et de nos communautés paroissiales pour aider à cette première annonce. Vous voyez, leur charisme, c'est vraiment la première annonce. C'est la proclamation du kérigme, en particulier dans ces vastes zones de notre monde d'aujourd'hui qui ne sont plus atteints par l'annonce de l'Évangile.
Vous serez d'ailleurs à Naï prochainement pour une visite pastorale sur deux paroisses, je crois.
Voilà, les deux paroisses de Sainte-Marie de Batbiel-Borde et Pietat-la-Ribère-Naï, voilà, que je vais visiter au moment du 8 décembre, donc sous le signe de la Vierge Marie dans le mystère de son Immaculée Conception.
Pour revenir sur ces réalités nouvelles, il me semble qu'à Lourdes, vous avez également parlé du psycho-spirituel qui peut parfois donner des dérives. Est-ce que vous avez parlé de cela à Lourdes ?
Alors, nous avons parlé de cela à Lourdes. Le conseil épiscopal, je pense, pour les nouvelles religiosités, et je ne sais plus exactement le titre, mais qu'importe.
Voilà, l'évêque de Créteil.
Voilà, s'était penché sur la question du psychospirituel dans la vie de l'Église et des sessions dites de guérison intérieure qui parfois ne distinguent pas suffisamment la part psychologique et la part spirituelle de la thérapie qui peut être proposée aujourd'hui. Qui déborde, je dirais, la question des réalités ecclésiales nouvelles, car les communautés nouvelles sont souvent plus encadrées dans ce domaine et ont déjà une certaine expérience communautaire et un accompagnement ecclésial qui leur permet d'éviter pas mal de dérives. Mais il se trouve qu'il y a dans la mouvance du renouveau charismatique, d'une manière plus générale, pas forcément dans les institutions que sont devenues les communautés nouvelles, des propositions qui sont faites et qui ne sont peut-être pas toujours suffisamment régulées, pas suffisamment accompagnés et qui peuvent donner lieu, en effet, à des dérives. Hein. Qu'est-ce que l'on met sous le mot guérison intérieure et comment passe-t-on peut-être trop facilement du psychologique au spirituel ? Voilà. Comment est-ce qu'il faut, comme disait Jacques Maritain, un grand philosophe chrétien, distinguer les plans pour les unir, car c'est aussi prendre en compte la réalité de la personne humaine qui ne peut pas être saucissonnée. Hein. Il y a trois dimensions dans la personne humaine. Il y a la dimension physique, il y a la dimension psychologique, il y a la dimension spirituelle qui doivent être traitées chacune pour sa part, mais en même temps dans leur unité, car il n'y a, mon tout ne fait qu'une personne humaine.
Alors une autre réalité, Monseigneur Hayet, mais malheureusement qui n'est pas nouvelle, c'est la pauvreté. La pauvreté qui augmente, et notamment chez les plus jeunes, c'est le constat du Secours catholique qui a dévoilé donc son rapport annuel et qui déplore que les 18-25 ans soient de plus en plus pauvres dans notre pays. Alors on approche aussi à grands pas de la démarche Diaconia 2013. Alors qu'est-ce que vous souhaitez, je pense que vous avez lu ces chiffres du Secours catholique.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous les bénévoles qui s'engagent au Secours catholique, mais également à tous ceux qui souffrent de la précarité aujourd'hui?
Voilà, le rapport du Secours catholique, en effet, est quand même assez inquiétant par l'augmentation que vous venez de souligner de la pauvreté, en particulier chez les jeunes et chez les jeunes ménages. Et c'est quand même des choses qui sont nouvelles et qui risquent de faire grandir l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, les plus pauvres étant ceux qui pâtissent le plus des crises financières que nous connaissons avec toutes les répercussions économiques et sociales que ce rapport du catholique a bien souligné. Évidemment que dans la démarche Diaconia 2013, dans laquelle nos communautés chrétiennes s'engagent en ce moment avec bonheur, nous aurons à faire une plus grande place dans nos communautés aux personnes en situation de pauvreté, de précarité, Non seulement il ne s'agit pas d'être dans une attitude d'assistance, mais il s'agit d'être dans une attitude d'intégration dans nos communautés, de manière à mieux faire jouer la solidarité entre les différents membres de nos communautés. Et c'est certainement un point d'attention particulier pour les jours qui viennent, en particulier l'approche de Noël.
L'année pastorale qui s'annonce est placée sous le signe de la réconciliation, et réconciliation notamment dans les familles, avec un point fort pour l'année qui vient, ce sera la journée Famille en fête, qui aura lieu le dimanche de la Pentecôte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, nous essayons de réitérer l'édition de Famille en fête 2011, qui était une première à Anglette, au jour de la Pentecôte, et qui aura lieu à nouveau au jour de la Pentecôte à Anglette, en zone du refuge, pour le dimanche de la Pentecôte, 27 mai 2012. Donc, rassemblement de la famille diocésaine, sous le thème de la famille. Pourquoi la famille? Parce que c'est le lieu de convergence de toutes les générations. Et donc, tout le monde peut se rencontrer à travers la famille, qui est vraiment le lieu de rencontre de tous. Et en insistant davantage cette année sur la réconciliation, parce que j'ai souhaité que l'on approfondisse au cours de cette année notre pratique du sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sûr que dans les fragilités que nous sommes invités à analyser dans l'élan de Diaconia 2013, en particulier cette année, la première est celle du péché, qui entrave notre cœur et qui a besoin en premier d'être guéri. Et c'est pourquoi je pense que nous sommes à une époque où nous pouvons connaître, également dans, pas seulement dans la société, mais aussi dans l'Église, un certain nombre de tensions, d'incompréhensions, de méprises, de malentendus, qui peuvent être aussi exaspérés par les rumeurs, les préjugés, les anathèmes que l'on peut s'envoyer les uns aux autres, parce qu'on ne se comprend plus tout à fait, selon les générations aussi. Et je crois à l'urgence de la réconciliation. Je ne sais pas si c'est l'Afrique qui, encore une fois, déteint sur moi, mais je crois à l'urgence de la réconciliation, et je crois que cette réconciliation, qui est le préalable à une spiritualité de la communion, que j'ai appelé de tous mes voeux aussi dans ma lettre pastorale, passe par des moyens surnaturels. Qu'elle passe par le dialogue, qu'elle passe par la libération de la parole, qu'elle passe par ces actes solidaires entre nous, mais qui passe aussi par des moyens surnaturels, et en tout cas par des conversions personnelles et collectives, et qui passe aussi bien par une pratique de cette guérison qu'apporte le sacrement de la pénitence et la réconciliation.
Concrètement, d'ici le mois de juin, d'ici le rassemblement Famille en fête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez proposer au diocèse pour vivre, pour réfléchir sur ce thème de la réconciliation?
Alors, pendant le temps de l'Avent, j'ai invité les prêtres d'abord à relire leurs propres pratiques de ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation, tant comme pénitent que comme confesseur, à l'aide d'un texte qui avait... d'une conférence qui avait été prononcée par le cardinal Meissner à Rome pour la rencontre internationale de clôture de l'année sacerdotale, en invitant même les prêtres, même si ce n'est pas forcément évident, eh bien de partager entre eux en réunion de doyenné. Et après, pendant le carême, faire des propositions plus concrètes pour rendre plus accessible dans nos communautés ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation, moyennant évidemment des groupes de réflexion, des catéchèses, des conférences, pour aider à mieux comprendre l'importance de ce sacrement pour notre vie chrétienne, personnelle et communautaire.
Les nuits de la miséricorde qui ont
voilà,
été organisées
parmi les cathédrales. Parmi les initiatives proposées, il peut y avoir les nuits de la miséricorde, il peut y avoir aussi des journées du pardon et de la réconciliation qui se vivent dans certains diocèses, qui sont centrées sans doute sur le sacrement même, mais qui débordent le sacrement lui-même à travers des lieux d'écoute, peut-être quelquefois plus psychologiques, etc., des démarches proposées dans ces journées. Donc on a proposé un schéma aussi. C'est peut-être aussi des permanences de confession un peu non-stop dans des agglomérations, en marge de l'adoration perpétuelle, bon, etc. Donc de rendre toujours plus accessible cette démarche de manière personnelle, à travers aussi des célébrations communautaires, mais ponctuées par une démarche individuelle de confession et d'absolution.
Pour nos amis béarnais, qui ont entendu que vous allez donc réitérer ce rassemblement famille en fête de nouveau anglaise en Pays Basque, ils pourraient à juste titre dire encore en Pays Basque.
Alors, encore en Gascogne, parce qu'anglaise est sur la côte basque sans doute, mais c'est encore des terres de Gascogne, si je puis dire, qui permettent aux Basques et aux Bernais de se retrouver. Oui, peut-être parce qu'on a pensé au conseil épiscopal composé de Basques et de Béarnais, fidéliser ce lieu parce que c'est vrai que c'est un lieu un peu spirituel qui, à cause de sa, j'allais dire, symbolique spirituelle précisément, peut être plus attractif que d'autres lieux. Mais bon, ça n'est pas
on verra pour 2013.
Et on verra pour les autres années.
Monseigneur Marc Haillé, bon anniversaire, puisqu'il y a quelques jours près, il y a 3 ans, vous étiez donc ordonné à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, évêque de Bayonne. 3 ans après, vous êtes content d'être dans ce diocèse?
Oui, pleinement heureux. Vous voyez, maintenant, comme j'ai coutume de le dire, ma mémoire est dans les Pyrénées-Atlantiques et n'est plus dans le Var, puisque j'ai oublié beaucoup de noms, et même si dans mon cœur, les gens que j'ai rencontrés restent présents, mais je me sens maintenant beaucoup plus intégré, évidemment, dans un diocèse que j'ai arpenté quand même pas mal, et donc très heureux, en effet, d'être dans ce beau diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
Comment allez-vous fêter Noël? Où serez-vous pour la fête de Noël? Et peut-être quelques jours avant, à qui allez-vous rendre visite?
Alors,
à qui allez-vous vous
adresser? Comme toujours, je crois que c'est très important, j'irai célébrer la messe avant Noël à la prison de Bayonne et aussi à la maison d'arrêt de Pau, dans le quartier des femmes et dans le quartier des hommes. Ça, je crois que c'est une chose qui me paraît acquise maintenant, mais qui m'est très chère. Et puis je serai pour la messe de minuit à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, et je traverserai la Dour pour la messe du jour. Je serai à Sainte-Croix, et je crois qu'à l'issue de la messe, nous aurons un repas convivial avec les personnes qui sont touchées par l'isolement et la solitude.
Monseigneur Haillé, je sais que vous savez dire Joyeux Noël en basque et en béarnais. Est-ce que vous savez le dire en bariba, puisque vous étiez au Bénin?
Non, en bariba, je sais dire seulement comment allez-vous? Eh bien, ça va bien, c'est-à-dire Akulando Alafia.
Merci beaucoup, Monseigneur Haillé. Nous espérons vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Merci également à Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous les auditeurs de Radio La Pourdiratia et aux auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées.
Merci à vous.
Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Merci à Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.